Alors, on va faire Bezrat Hashem aujourd'hui notre troisième cours sur le chapitre 26. Le thème du chapitre 26, c'est la joie. La joie en toutes circonstances. On a expliqué, dans les deux premiers cours, comment la joie était une composante principale du service de Dieu, et que sans la joie, on devenait un zombie, que le Yetzara faisait ce qu'il voulait de nous. On a expliqué que bien qu'a priori, dans la Torah, il y a des endroits où on explique que la mélancolie a des bienfaits, ça peut faire du bien. On a expliqué que la mélancolie n'est jamais un but en soi, seulement un moyen, comme on va expliquer aujourd'hui. Ça veut dire que quand une personne, par exemple, va arriver l'heure du Kriyat Shema Lamita, il va réfléchir à sa averot, là, effectivement, il fera tshuva. Mais sinon, si c'est pas le cas, on a expliqué longuement qu'il n'y a aucun sens de chercher la mélancolie pour la mélancolie. En d'autres termes, pour être plus clair, par exemple, on vient de terminer hier soir une période de 3 semaines. D'accord ? Il faut savoir que dans la Torah, le concept de être triste pour être triste, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas on est passé par une période dans laquelle on devait être triste, et maintenant, pendant 3 semaines, il y avait la rama, il y avait l'angoisse, maintenant l'angoisse est terminée, maintenant on peut commencer la joie. Ça marche pas comme ça. On peut pas dire que la Torah, elle nous amène l'angoisse pour l'angoisse. Si la Torah met l'angoisse, c'est pour un but d'arriver plus tard, grâce à ça, à la joie. Parce que l'angoisse, t'as jamais été un but en soi.
C'est un moyen.
C'est un moyen. Comme on va l'expliquer plus longuement aujourd'hui. Cependant, on a expliqué que pour comprendre plus concrètement comment faire pour combattre la déprime, comment faire pour combattre la mélancolie, il faut d'abord se poser la question, pourquoi une personne est mélancolique, pourquoi une personne est déprimée? On a expliqué qu'il y a deux possibilités. La semaine dernière, on a développé la première possibilité. Première possibilité, pourquoi une personne est déprimée? Il peut être déprimé parce qu'il a des problèmes dans sa vie. Quoi comme problème? Dieu préserve. Des problèmes qui affectent bané, chayé ou maisonné. Des problèmes qui affectent les enfants, la santé et la nourriture. Et là, donc, la parnassa, ça veut dire trois domaines. Ça veut dire les enfants, la santé, la parnassa. Une personne peut être éprouvée dans ça. Et on a expliqué la semaine dernière, on a dit comment on peut faire pour rester besimcha malgré ses obstacles, malgré ses épreuves. On a expliqué qu'en vérité, un juif, il doit avoir la emouna, qu'en vérité, l'épreuve, c'est du bien. Et c'est un bien qui est tellement fort, comme on a expliqué longuement la semaine dernière, qui ne peut pas se développer dans du bien, qui ne peut pas se développer de façon qu'on le voit physiquement comme du bien. Mais en vérité, lorsque ma chère viendra et que Kadosh Baruch Hu nous ouvrira les yeux, on verra que ce qu'on croyait être un mal absolu, en vérité, c'était un bien qui était tellement fort que nos yeux étaient incapables de le voir. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle un juif croyant, non seulement qu'il ne doit pas perdre sa croyance, sa emouna, quand il a une épreuve, mais en plus de faire un effort pour continuer à rester croyant et avoir le bitachon, d'un côté, être confiant que le problème partira, mais d'un autre côté, quand c'est un problème qui est là pour rester, parce que bon, voilà, c'est comme ça maintenant, eh ben, il doit se dire que ce problème vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'en tout cas, il n'y a aucune raison d'être triste à cause de ça. On l'accepte. Dire que je vais commencer à danser, c'est une autre question, mais en tout cas, de là à être mélancolique, à être déprimé, ça n'a rien à voir, parce que je suis déprimé quand je sais que c'est raté. Mais quand j'ai compris que c'est pas raté, mais que moi j'ai pas compris en quoi c'est réussi, c'est une autre chose. En d'autres termes, le but du cours de la semaine dernière, c'est de comprendre que même quand on a des événements dans la vie qui nous arrivent et qu'on a l'impression que c'est raté, en vérité c'est pas raté. En vérité c'est une bonne chose. Ah, pourtant je le vois pas. Alors tu le vois pas. Mais ce que je me dis, c'est pas je me dis laisse tomber c'est mort, c'est raté. Non, je dis pas ça. Je dis laisse tomber, j'arrive pas à voir comment c'est bien. Mais au fond de moi, je dois me persuader, parce que c'est la réalité qui est écrite dans le Zohar, dans la Gemara, quand on a mis la semaine dernière plusieurs preuves, qu'en vérité, tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est que, exclusivement, du bien. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, on va s'arrêter aujourd'hui sur une deuxième catégorie d'épreuves, une deuxième catégorie de déprime, c'est la déprime spirituelle. Ça, on va dire, c'est plus proche de nous, et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Alors, on va donner, oui.
J'étais pas là la semaine dernière, juste une question.
Vas-y.
Alors, pourquoi on est en deuil?
Pourquoi on est en deuil?
Ouais, parce que tout ce qui vient.
Parce que le deuil, c'est parce que de nos yeux, on ne voit pas comment c'est du bien. Donc on est en deuil pour réaliser qu'il y a un problème, pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous amener dans une situation dans laquelle on verra que c'est du bien.
Et si entre-temps on réalise?
Ça n'existe pas le mal pour le mal.
D'accord.
Dieu n'envoie jamais le mal pour le mal.
Et si entre-temps on réalise?
Je te donne un exemple. Quand par exemple ton fils fait une bêtise, tu le punis?
Oui.
Pourquoi tu le punis? Du style, il m'a embêté, je vais l'embêter?
Non, pas du tout.
C'est ça? Tu m'as embêté, je vais te décoller une droite, tu vois, œil pour œil, dent pour dent? Pas du tout, marche pas comme ça. Pourquoi tu le punis?
Pour qu'il apprenne.
Parce que dans la punition, il y a de la bonté. Et en vérité, dans la punition, il y a plus de bonté que dans la bonté habituelle. Parce que dans la bonté habituelle, c'est facile de l'aimer quand il fait des bonnes choses. Mais lui montrer ton amour en le punissant, c'est plus compliqué. Parce qu'on n'a pas envie de punir son enfant. Qui a envie de punir son enfant? qui a envie de frapper son enfant, qui a envie de punir, de frapper, de crier, personne n'a envie. Et pourtant, on le fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'on aime notre enfant. Et ça, c'est le vrai amour. Seulement, est-ce que l'enfant, il voit ça comme de l'amour?
Non.
Non, évidemment que non. L'enfant, il voit ça comme quoi? Comme de la rigueur.
Mais plus tard, il comprend.
À ce moment-là, il peut se dire même, est-ce que mon père est méchant? Peut-être qu'il peut se dire ça.
Bah oui, c'est ce qu'on lui dit.
D'accord? Et pourtant, nous, on lui dit, plus tard tu comprendras, mais il comprend pas tout de suite. Non. Des fois, il faut des années pour qu'il comprenne. Ben, c'est la même chose.
Nous, on réalise aujourd'hui.
Par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous envoie jamais du mal. Ça n'existe pas. Le mal pour le mal, ça n'existe pas. Je dis ça parce que c'est important. Vous savez, hier soir, parce que là, on a pu faire la douche depuis hier soir. D'habitude, on doit attendre le lendemain. Hier soir, comme ça, j'étais sous la douche, tu vois. On a fait tout le Tisha B'Av. Et là, maintenant, tu vas te doucher. Ça y est, Tisha B'Av est terminé. Et alors quoi? Ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 3 semaines maintenant et c'est fini, c'est terminé. Tu sais, voilà, il y a eu 3 semaines, t'as mis l'angoisse, hop, on a mis un bouton, on appuie sur un switch, ça y est, c'est fini, maintenant le deuil est terminé. Et alors pourquoi on a fait tout ça? À quoi ça sert? On a perdu notre temps. On a l'impression que, voilà, on a espéré le tamidage, il est pas venu, bah tant pis, maintenant on va à la plage.
C'est un peu ça.
Mais alors bah c'est quoi?
On est obligé de dire
que le deuil n'est pas simplement un but pour le deuil. Ça veut dire je suis en deuil pour être en deuil. On est obligé de dire que le but du deuil, c'était de nous approcher davantage de Mashiach, de nous faire réaliser davantage. Alors certes, on n'a pas mérité, Mashiach n'est pas venu hier après-midi, comme on aurait espéré. On a tous espéré qu'il vienne hier, il n'est pas venu hier après-midi. D'accord? Mais c'est évident qu'avec les années qui avancent, on s'approche davantage de Mashiach. Et c'est comme ça que le rabbi, il explique, je rends une petite parenthèse que je referme tout de suite, c'est comme ça qu'il explique par rapport... Ah, vous savez,
le deuil, ce n'est pas aussi pour le mort.
Mais quelle mort, là? Là, je parle du deuil Beth Amikdash. Mais à quoi ça sert, concrètement? À quoi ça sert que le 17 Tammuz, on est venu?
Nous, on vérifie le deuil.
Oui.
Pour la personne, pas pour le mort.
Ah ben, j'ai compris, mais ma question, c'est à quoi ça sert? Là, il est bizarre, ce deuil. On sait très bien que chaque année... Mais là, je parle du deuil de Tisha B'Av. Voilà, je parle du deuil de Tisha B'Av.
C'est la même chose.
Parce que c'est une grande question dans la Gemara. Pour qui est le deuil? Est-ce que le deuil est pour le défunt? Ou est-ce que le deuil est pour les endeuillés? Et c'est une grande question. C'est un grand débat. Ça veut dire, en d'autres termes, est-ce que le deuil est aussi pour l'endeuillé? Ou uniquement pour le défunt? D'accord? C'est un peu pour les deux. Il y a une grande marloquette dans la Gemara. En tout cas, ce qui est clair, ce que je voulais vous revenir, je voudrais une petite parenthèse. Une parenthèse, je pense, importante. Vous savez, on a vu au cours de l'histoire qu'il y a eu beaucoup de grands maîtres qui ont donné des dates à laquelle Mashiach allait arriver. On sait par exemple que Rabbi Saadia Gaon a donné une date. Maïmonide a donné une date aussi. Dans la lettre qu'il a écrite aux Juifs du Yémen, il a donné une date.
On les connaît.
Une date qu'on connaît. Le Gaon de Vilna a donné une date. Le Baal Shem Tov a donné une date. L'Admour Hazaken a donné une date. Le Rabbi précédent a donné une date. Ils ont tous donné des dates.
Des dates précises
à laquelle Mashiach allait arriver. Et la date est passée, et il ne s'est rien passé.
Est-ce que c'est la même date?
D'accord? Non, pas du tout, évidemment que non. Alors, ils ont tous donné une date de leur génération. Ils ont dit, Mashiach va venir, telle date. Et pourtant, quand on nous la Gemara, on voit que la Gemara a dit, attention, c'est très très grave de donner des dates. Pourquoi? Parce que quand on donne une date et que la date arrive et qu'il n'arrive pas, bah, qu'est-ce qu'ils disent le peuple? Ils disent laisse tomber, c'est terminé, il n'arrivera jamais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au cours de l'histoire, on a eu beaucoup de gens qui ont donné des dates. Des tzadikim, je ne parle pas des charlatans qui ont fait des petits calculs et qui ont sorti, ils ont dit 12 décembre 2012, je ne sais pas quoi, il va avoir ma chère. Je ne parle pas de ça, moi. Apocalypse. D'accord? Je parle des gens sérieux ici. On parle des gens sérieux qui ont trouvé dans les textes. Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qu'on donne en général. On dit que dans quel cas c'est interdit de donner une date? C'est interdit de donner une date quand le tzadik donne une date tam, comme ça. C'est-à-dire sans raison.
Sans explication.
Mais si le tzadik sent que la génération est faible et qu'il faut les encourager, et que c'est uniquement dans le but de les encourager, mais pas pour divulguer une information, pour faire le beau, d'accord? Là, c'est évident que c'est une bonne chose. Cependant, le rabbi pose la question. Il dit, comment ça marche? Le tzadik, il a donné une date. C'est vrai ce qu'il a dit. Un tzadik dit pas des bêtises. Et pourtant, la date est passée. Il s'est rien passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a mal compris le tzaddik? Est-ce que le tzaddik a mal compris l'information? Est-ce qu'il ne veut pas dire ce qu'il a donné? Est-ce qu'il s'est trompé? Chas v'shalom. Comment ça marche?
Pourquoi il s'est pas trompé? Si c'est passé?
Ah justement, c'est ma question.
Bah oui.
Alors en plus coup sur coup, tu vois. Comment ça? D'abord pourquoi il donne une date? S'il donne une date, c'est qu'il a vu une information sûre.
Mais c'est
d'accord?
C'est une mesure.
Mais encore une fois, alors, si c'est encouragé, mais que c'est quelque chose de faux, c'est par exemple, c'est comme par exemple quelqu'un qui dit à sa femme, il dit, je vais t'acheter une rivière, d'accord? Alors qu'il compte jamais lui acheter. Ou il dit à son fils, je vais t'acheter un château, alors qu'il compte jamais lui acheter. Les télékims, ils sont pas dans le bluff. Tu comprends? Ils sont dans le vrai. Alors comment ça marche?
Je t'ai pas dit quand.
Alors Rabbi, il dit un chidouche comme ça, un chidouche extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit en vérité, lorsque les tzadikim annoncent une date, c'est parce que chaque tzadik a une façon différente d'imaginer et de comprendre pourquoi on attend Mashiach. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on est sorti d'Égypte, quand tu demandais à un juif qui sort d'Égypte, pourquoi on sort d'Égypte? Pourquoi c'est intéressant de sortir d'Égypte? Tu aurais pu avoir plusieurs réponses. Tu as par exemple un juif qui va te répondre, il va te dire « moi je veux sortir d'Égypte pour être tranquille, pour plus être esclave ». D'accord. Un autre, il va dire, moi, je vais sortir d'Égypte pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Un autre, il va dire, moi, je vais sortir d'Égypte pour avoir l'argent des Égyptiens. D'accord? Un autre, il va dire, moi, je vais sortir d'Égypte pour aller en Israël. Un autre, il va dire, moi, je vais sortir d'Égypte pour plus être dépendant de qui que ce soit. Toutes ces réponses sont vraies. Et tout s'est passé. Et pourtant, quand on va demander à chacun, pourquoi tu attends la sortie d'Égypte, chacun, il va donner une réponse qui est le point pour lequel il attend la sortie d'Égypte. Alors le Rabbi, il explique, il dit c'est la même chose par rapport à Mashiach. En vérité, chaque tzaddik, il a une raison, il a une lumière, pourquoi il attend Mashiach. D'accord? Par exemple, pour Maïmonide, il va dire, moi j'attends Mashiach, parce que quand Mashiach va venir, il y aura la connaissance de la Torah qui arrivera à un tel niveau. Et pour lui, ça c'est Mashiach. Maintenant, dans le ciel, on lui a divulgué une information, qu'à telle date, la Torah, par exemple, pourrait être dévoilée comme ça. Imaginons que Maïmonide, il attend Mashiach, parce que quand Mashiach va venir, on sera moins dépendant des nations. Et Maïmonide, il a eu cette information que telle date, on sera moins dépendant des nations. Mais quand il voit ça, il va divulguer ça à son kahal, il va divulguer ça à ses élèves, il va leur dire, écoutez, j'ai eu une information. C'est que une des raisons pour laquelle on attend Mashiach va s'accomplir à cette date. Et si on est méritant, une fois que Dieu accomplit cette raison et cet aspect de Mashiach, il peut accomplir aussi les autres aspects de Mashiach, et ça veut dire que Mashiach peut venir physiquement. Et c'est la raison pour laquelle les tzadikim, ils annonçaient les dates. D'abord, pour annoncer au Kahal, regardez, on a fait du chemin. Regardez, on a fait du chemin, voilà où on a avancé, voilà où on peut arriver. Et on va arriver. Et si on force, eh ben, une fois que la porte va s'ouvrir pour nous donner cet aspect de Mashiach, eh ben, automatiquement, on aura tous les aspects de Mashiach. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, l'Admor Hazaken avait donné une date. Une date qu'il y a à peu près 200 ans d'aujourd'hui. La date est passée et il ne s'est rien passé. Alors il y a eu le petit-fils de l'Admor Hazaken qui a posé la question à son grand-père. Il a dit, papy, tu nous as annoncé. Tu sais, les petits-enfants, ils ne comprennent pas le... Tu as donné une date, ouais, où est la date? Et il a répondu, il a dit, oui, mais on a imprimé, l'année où j'ai annoncé que Mashiach est arrivé, on a imprimé le livre qui s'appelle L'Écouté Torah. C'est quoi le livre de l'Écouté Torah? C'est un livre avec des grands secrets de la Torah sur la paracha de la semaine.
Et ça, c'était
parce que ça, c'était sa conception de Mashiach. Sa conception de Mashiach, c'est quoi Mashiach? C'est les secrets de la Torah qui vont être dévoilés. Si on avait mérité, on aurait eu aussi le Mashiach global, pas le Mashiach seulement individuel. J'explique ça pour expliquer que il faut comprendre que Mashiach ne vient pas d'un coup. Il vient progressivement. Plus on avance dans les générations, et plus progressivement on nous prépare. C'est la même chose, vous savez, quand on se pose la question, par exemple, sur les dernières années qu'on a vécues avec le Rabbi. Toute personne qui était dans le milieu à ce moment-là, il sait très bien l'euphorie qu'il y avait dans le mouvement Chabad dans les années 90, au début des années 90. C'était une euphorie, c'est le cas de le dire. D'accord? Une euphorie messianique. Et après, qu'est-ce qui est venu de tout ça? Alors, on a envie de dire, il n'y a rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rabbi, il avait une vision. Il voyait, à ce moment-là, qu'il y avait des miracles qui allaient arriver dans le monde. Comme ça s'est passé. C'est une époque extraordinaire. C'est une époque où il y a eu la guerre du Golfe, on a gagné. C'est une époque dans laquelle l'URSS s'est effondré. C'est une époque dans laquelle le monde a bougé énormément. D'accord? L'URSS s'est effondré. Saddam Hussein s'est effondré. Le monde a énormément bougé comme il n'avait pas bougé depuis des millénaires. Il a bougé beaucoup. Et le Rabbi avait vu ça. Et il a voulu nous faire passer un message que si on force, cette porte qui va s'ouvrir, qui est un événement messianique, que les nations vont transformer leurs armes de guerre, d'accord, en socs de charrues, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Eh ben, si on va forcer, Mashiach va venir. Malheureusement, on n'a pas mérité. Mashiach n'est pas venu, d'accord? Deux secondes. Malheureusement, on n'a pas mérité. Mashiach n'est pas venu. Mais il est évident qu'on est plus proche de Mashiach qu'il y a 30 ans. C'est sûr, ça. Plus on avance, et plus on s'approche. C'est sûr. Et pareil, le rabbi précédent, évidemment.
Une évidence, oui.
C'est une évidence. Il est évident aujourd'hui. Il voyait un but. Malheureusement, on n'a pas mérité. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau but, on avance. Je dis ça juste pour terminer deux secondes, je termine le raisonnement. Je dis ça juste pour expliquer par rapport à Tisha B'Av, ce que je pensais hier soir. D'accord? On peut pas dire que voilà, il y a trois semaines on a commencé un deuil, le deuil est terminé, ça y est, maintenant on va aller en vacances, tu me laisses tranquille avec ton deuil, on va aller à la plage tranquillement et c'est fini. On se retrouve dans un an. D'accord? C'est bon, on est reparti pour un tour. Tu vois, c'est programmé, tu vois. Il y a le deuil, la plage, le mois des loups, Tishri. C'est programmé. En plus, cette année, c'est bien tombé, tu vois.
Ça fait 5 millions de salures quand même. Hein, ça fait 3 millions de salures quand même.
D'accord? Évidemment. Alors, il faut comprendre que ça marche pas comme ça. C'est pas un deuil programmé. C'est pas un deuil programmé qu'à un moment, hop, switch, on allume la lumière, on éteint, allumé, éteint, hop, ça y est, c'est terminé, c'est éteint maintenant, rentrez chez vous. Ça marche pas comme ça. On a avancé vers Mashiach. Le deuil qu'on a fait pour 3 semaines, c'était pas un deuil qui était en vain. Et ça, avec ça, j'aurais aussi un autre point. Vous savez, des fois, quand par exemple, on fait des tefilotes pour une personne qui est malade. On fait des tefilotes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, comme on a fait pour le jeune homme à la vache à l'homme qu'on a enterré la semaine dernière. Et les tefilotes n'ont pas marché. C'est la réalité. Alors, ça veut dire quoi? Le tefilote était perdu? On a perdu notre temps. Ah, mais c'est une question sérieuse. Des questions, une fois que ma fille m'a posé. Elle m'a dit pourquoi on a fait les tefilotes, pourquoi Hachem ne l'a pas écouté. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu notre temps?
Elles sont gardées.
D'accord? La réponse est la suivante. Chaque tefila qu'on a fait, ça a fait quelque chose dans le ciel. C'est une teshuva qui est au crédit de cette personne qui est partie. Une teshuva que des gens ont fait. Ils ont pris sur eux des mitzvot, ils ont pris sur eux de mettre les tefilines, ils ont pris sur eux de mettre la mezouza, ils ont pris sur eux de ne pas faire des bêtises, de faire teshuva. Ça, c'est au crédit de la personne qui est partie. Et ça, c'est quelque chose de gagné. C'est pas quelque chose de perdu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs buts dans son monde. Il n'y a pas juste un but, il faut qu'il soit guéri, il n'est pas guéri, il laisse tomber, c'est perdu. Il y a plusieurs buts parallèles. Ça, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans les chashbonot d'Akadosh Baruch Hu, dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu, on peut pas comprendre. Et donc c'est la même chose par rapport à Mashiach, c'est la même chose par rapport au deuil, que la raison pour laquelle on peut être Bessimra, parce qu'on se dit que même si ce qu'on pensait être du bien n'est pas arrivé, d'abord on s'approche progressivement de Mashiach, et bien il se rattache, lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous montrer comment en vérité tout ça c'était du bien. Ça c'est la raison pour laquelle on donnait des dettes. Voilà, on avait des questions. Allez-y.
Oui, Eric. Oui,
t'as Eric qui avait une question tout à l'heure.
Oui, on parlait du rabbi, il avait dit quelques jours avant que la guerre du Golfe va s'arrêter le jour de Pourim.
Il avait dit, ça s'est passé exactement comme ça, à la lettre.
Exactement. Oui.
Et ils ont fait des Pourim dans le palais de...
Et mais le rabbi aussi, pendant ces années-là, il n'arrêtait pas de dire, Mashiach arrive avant même qu'on fasse Pintra, il arrive tout de suite, à l'instant, etc. Et il n'est pas arrivé. Alors comment ça marche? C'est le même rabbi qui a donné des brachot et qui a fait, grâce à ces brachot, il y a eu des milliers d'enfants qui sont nés. Alors comment ça marche?
Il manquait quelque chose.
D'accord. C'est pas qu'il manquait quelque chose. Ça encore une fois, il ne faut pas croire qu'on a raté le coche.
Non. Non.
C'est qu'on a avancé. Il a vu une vision, c'est qu'à un moment ça allait s'ouvrir, le monde allait changer,
mais
et c'est
assez.
Clair que le monde a changé.
Mais pas assez,
et si on avait forcé, eh ben, une fois que la porte s'ouvrait, on aurait pu faire entrer Mashiach. Malheureusement, on n'a pas mérité. On n'a pas assez crié à Dmataï. On n'a pas assez montré à Kadosh Baruch Hu qu'on était dérangé de l'exil. Parce que c'est le problème finalement. Le rabbi de Kotz qui disait que le plus grand exil, c'est quand on oublie qu'on est en exil.
Oui.
On s'est habitué à la prison maintenant. On est bien en prison. C'est le pire ça. Quand le tolard, il est en prison. Et pour lui, la vraie vie, c'est la prison. Et quand on le met dehors, il dit, mais c'était mieux à la prison. C'est-à-dire maintenant, il faut être honnête. Quand on se dit Mashiach, on se dit mais Mashiach, pourquoi je l'attends Mashiach? J'ai dit mais attends Mashiach, est-ce que j'aurai ma voiture? Est-ce que j'aurai mon travail? Est-ce que j'aurai les mêmes enfants, la même femme? Où je vais habiter? Comment je vais faire? Écoute, laisse tomber, si ça marche, ne touche pas. Comme disent les Américains, si c'est pas cassé, ne touche pas, tu vois. Ça veut dire, ça marche maintenant, je me suis débrouillé, j'arrive à tenir comme ça. Laisse-moi comme ça, laisse-moi tranquille, ne m'amène pas ton Mashiach. Mais c'est pas l'histoire. Une fois, il y a un paysan, il était à la synagogue, en Russie. Et le rabbin, il est venu, c'était avant Tisha B'Av comme ça, il a annoncé, un rabbin d'Israël. Il est venu, il a dit, vous savez, on attend Mashiach, et bientôt Mashiach va venir, et on va aller à Jérusalem avec nos femmes et nos enfants et tout le monde, etc. Bon, le paysan, il est rentré à la maison, il était angoissé. Il a dit à sa femme, tu sais, il y a un rabbin qui est venu d'Israël, il a dit, on va bientôt aller à Jérusalem. Tu t'imagines? Il a dit, mais comment on va faire? Comment on va faire avec la vache? Comment on va faire avec la maison? Comment on va faire avec la terre? Comment on va faire avec tout? Comment on va faire? Comment on va se débrouiller? Qu'est-ce qu'elle répond sa femme, paysanne aussi? Elle dit, t'inquiète pas, Dieu qui nous a toujours sauvés, il nous sauvera aussi de ce Mashiach. Vous voyez le problème? C'est ouais, beaucoup d'exemples comme ça qu'on raconte. Quand on a l'esprit petit, c'est comme aussi une autre anecdote, on raconte chez les Chassidim. On raconte une fois, hein, il y avait une personne qui était un employé, un petit employé. Et il avait son employeur qui lui cassait souvent les pieds. Il était là, pas son employeur, je veux dire son subordonné, quoi, celui qui est plus supérieur. Et il lui cassait tout le temps les pieds, il l'embêtait, etc. Et son supérieur, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois, il a fait un grand plaisir au PDG. Vraiment, il a fait un très très grand plaisir, il a fait quelque chose, donc le petit employé. Alors le PDG, il lui dit, écoute, je veux te remercier, parce que tu m'as fait tout ce que tu me demandes, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il demande, ce Remar? Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander à mon supérieur d'arrêter de m'embêter? Alors il lui a dit, mais Remar, t'aurais dû me demander de te mettre toi le supérieur. Vous voyez ce que c'est quand on regarde petit? C'est la même chose par rapport à Machiar. On regarde petit, on dit, attends, moi je suis là. Ma petite vie, mes petites vacances, mon petit compte en banque, mon petit truc, etc. Et voilà, il faut pas trop me bouger, tu vois, je suis bien dans ce que je suis, j'ai un équilibre, ça y est, on bouge pas maintenant. D'accord? Ben, il faut comprendre que, en vérité, pour que ma chère arrive, c'est quoi, Admatai? Admatai, ça veut dire, il faut comprendre que le monde dans lequel on vit n'est pas normal. Regardez, la semaine dernière, c'est quand ils ont signé l'accord entre l'Iran et... Quand ils ont fait ça? La semaine dernière! Est-ce que vous y avez pensé aujourd'hui?
Non.
Pourquoi? C'est un drame pourtant ce qui s'est passé. C'est un drame qui va avoir un impact sur des générations. J'espère que ma chère va venir rapidement. C'est un drame ce qui s'est passé. Et pourquoi on n'y a pas pensé? Parce qu'on vit en mode galoute. Ça y est, on a déjà habitué. C'est bon, notre tête maintenant a déjà emmagasiné le fait que ça y est, il y a les problèmes qui arrivent maintenant. Ça y est, c'est fini, on a déjà accepté maintenant. La preuve, on a dormi tranquillement hier soir, non? Vous voyez le problème? Ça veut dire qu'on vit en mode galoute.
Non.
D'accord? Ça veut dire qu'on s'habitue. Un juif qui est en mode galoute, c'est-à-dire voilà. On a eu un gosse qui est limité la semaine dernière. Est-ce qu'on a dormi tranquillement hier soir? Bien sûr qu'on a dormi tranquillement. Pourtant, tu t'imagines, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est parti? Pourquoi sa mère n'a pas pu le marier? Pourquoi il est parti? Et c'est vrai, sa mère, elle n'arrêtait pas de dire ça. Pourquoi elle n'a pas pu le marier? Seulement voilà. Comme on vit en mode galoute, alors on accepte, on prend sur son dit, c'est normal, ça va bon, c'est comme ça, Dieu fait ce qu'il fait. Non. Dire Admatai, ça veut dire parler à Kadosh Baruch Hu et lui dire, c'est pas normal ce qui se passe. Et si on demande Admatai, ça fait en sorte que lorsque Dieu il ouvre des petites portes comme ça, programmées pour nous amener vers Mashiach, et ben, quand il ouvre la porte, si on pousse la porte, on dit, c'est fini, ouvre la grande, et ben, Dieu il ouvre grand. Ça dépend que de nous. Le Rabbi, il disait souvent, les dernières années, il disait, Mashiach est prêt, il est prêt à arriver, Dieu est prêt à nous l'envoyer, ce qu'il attend, c'est simplement qu'on le demande. C'est ça le we want Mashiach now, nous voulons Mashiach maintenant. On le demande pas, Mashiach. Faut être honnête. On l'attend pas, on le demande pas. Bien sûr, au fond de nous, on l'attend, on se dit, un jour il arrivera, pourquoi pas? Comme un jour je peux gagner au loto. Pourquoi pas? Comme ça, ma chère. Un jour, je peux gagner au loto. Un jour, peut-être ma chère va venir. Peut-être tu, peut-être non. Pas si, pas moi, ce sera mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ben, c'est pas grave. Ben, quand il viendra. Quand tu veux, tu nous annonces. Hein, pas de problème. Hein, quand tu veux. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Bon, je suis parti là dans un truc. Mais.
Comment?
Non, mais c'est la vérité. C'est quelque chose que j'ai pensé à ça hier soir et je pensais ce matin aussi.
Comment on peut le traduire par rapport au cours d'il y a deux semaines? Au cours d'il y a deux semaines.
Semaine dernière ou il y a deux semaines? Ah oui.
Il y a deux semaines, on a dit comme ça que chaque chose qui vient d'un Kadosh Baruch Hu, bien ou mal, c'est bien. Et il y a trois semaines, ou il y a quatre semaines, ou il y a cinq semaines exactement, on a dit qu'il n'y a pas de mal qui vient d'un Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que. Et il y a encore un peu plus loin, on a dit que la vérité, c'est celle qui vient d'un Kadosh Baruch Hu.
Tu as raison. On est croyant à 100%. C'est un paradoxe. J'ai compris. C'est un paradoxe. D'un côté, on est croyant, on sait que tout ce que Dieu l'envoie, c'est pour le bien. Mais d'un autre côté, il est de notre devoir de parler à Kadosh Baruch Hu. Et de lui dire jusqu'à quand on sera dans l'obscurité. Lui, il sait ce qu'il fait. On n'est pas en train de dire que ce que Dieu fait, c'est pas bien.
Comment une petite fourmi, un petit ouvrier...
Mais parce que Dieu me donne le droit de parler.
Attends, comment je peux une petite fourmi, un petit ouvrier, il peut aller voir le roi et lui dire, montre-moi tes livres là et dis-moi...
Parce que Hachem, c'est ton père.
Ah,
d'accord? Et même un petit bébé, il peut parler à son père. Même si ce sont des années-lumière. Hachem, c'est notre père, on peut lui parler. Respectueusement, on n'est pas en train de faire des grèves.
D'accord? Le dialogue est ouvert.
Mais le dialogue est ouvert. Il faut parler à Hachem. Il faut lui demander pourquoi. Il faut dire Admatai. Admatai, en hébreu, ça veut dire jusqu'à quand? Il faut poser cette question à Kadosh Baruch Hu. Parce que sinon, quand on vit en mode galoute, voilà, c'est comme celui qui dit, s'il te plaît, demande à mon supérieur d'arrêter de m'embêter. Khmar, t'en veux demander que t'as même Mashiach. Seulement voilà. On a l'habitude de réfléchir en mode galoute. On est devenus des juifs, on est nés comme ça, et on va mourir comme ça, si ça continue comme ça. On va continuer, non mais c'est vrai. Ça veut dire, est-ce que dans ma tête maintenant, ça me dérange que, à 120 ans, je vais mourir et ma chère n'est pas là? Ça me dérange pas. Je me dis, bon, ben, au pire, ce sera pas moi, ce sera mes enfants.
Tu veux dire que ça devrait nous déranger?
C'est sûr que ça devrait nous déranger. Ça veut dire quoi? Et ça, le rabbi l'avait dit comme ça. Il avait dit, s'il y avait 10 juifs dans le monde, 10 juifs, qui étaient dérangés par le fait que ma chère n'est pas là, ma chère serait déjà là. Et il a dit après, une des dernières choses qu'il a dit, si trois juifs dans ce monde, trois, vous avez bien entendu, s'entêter pour Mashiach, et qui, pour eux, ils seraient pas tranquilles que Mashiach n'est pas là, Mashiach serait déjà là.
Ça veut dire quoi s'entêter?
Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas.
Mais comment?
Ben, ça veut dire qu'ils se travaillent pour ne pas accepter.
Ça veut dire que tu n'es pas tombé dans l'habitude.
Pratiquement, ça veut dire ne pas tomber dans l'habitude. Et malheureusement, on tombe tous dans le panneau. On s'habitue à tout. C'est malheureux, mais c'est la vérité.
Non, on s'adapte.
On s'adapte.
Ça fait partie de
c'est une qualité que Dieu nous a donnée, mais qui devient un défaut. On s'adapte à tout. D'ailleurs, en passant, juste une petite parenthèse, les Allemands, ils marchaient même. Ils ont utilisé ça pour nous faire tomber. Progressivement, ils nous ont habitués. C'est pas venu d'un coup. Vous savez qu'il y avait des maires de ville qui étaient juifs, vous savez ça? Vous savez que les juifs étaient dans l'intelligentsia la plus haute? Comment on a pu les prendre et les prendre comme des animaux? Parce qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé une fonction que Dieu a donnée à l'homme, qui est la chose que l'homme peut s'habituer à tout. On peut s'habituer à l'obscurité et croire que c'est de la lumière. C'est une réalité. Regardez par exemple quand vous rentrez dans une cave, vous rentrez, vous croyez qu'il fait noir. Restez 5 minutes, vous commencez à voir. Et vous arrivez à reconnaître des objets. Ça veut dire qu'on s'habitue à tout. Et malheureusement, c'est ça. On est en pleine obscurité aujourd'hui, et on s'habitue, on dit c'est la lumière.
Et il n'y en avait pas trois qui ont souhaité le Mashiach.
Mashiach serait déjà là, sinon.
Ah bon?
Évidemment.
Pas trois.
Il n'y a pas trois, non? Pas trois, non? Évidemment qu'il n'y a pas trois.
Chez Lubavitch, même pas trois.
Il n'y a pas, malheureusement, non?
Même les proches du Rabbi.
C'est pas suffisant.
Incroyable, ça.
On a attend Mashiach, mais c'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement demander Mashiach parce que son Rabbi a demandé qu'il demande Mashiach.
Oui,
il faut au fond de soi vouloir Mashiach. Et c'est un travail, et on n'y est pas encore. C'est pour ça, une des dernières campagnes que le Rabbi avait lancées, c'était trois mots. Ichonu, d'ailleurs sur le côté, il y avait une grande pancarte comme ça partout. Ichonu, Leviat, Amashiach. Préparez-vous à l'avènement messianique, à la venue du Mashiach. Préparez-vous. Il faut se préparer, tout est dans la tête. Si nous on se prépare, lui il est prêt à venir. D'accord? Maintenant qu'on a expliqué ça, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, bon, elle est un peu longue, mais je pense que c'est important d'expliquer ça pour comprendre un peu où on va sur Terre. Maintenant on va parler, qu'est-ce qui se passe maintenant quand une personne est déprimée? Donc, on a expliqué qu'il y a deux types de déprime. On peut être déprimé parce qu'on a des problèmes dans la vie de tous les jours. Ça, on a expliqué comment on enlève cette déprime. En se disant que tout est pour le bien et que c'est mamage du bien et que ce qu'on croit être le plus grand mal, en vérité, c'est du bien qui est tellement fort qu'on peut pas le voir. Comme la lumière qui nous éblouit. Sauf qu'on le voit pas. Mais, d'un autre côté, paradoxalement, comme t'as dit Michael, on doit demander à Dieu Ad Matai. Vous savez, un des derniers discours que le Rabbi l'avait fait, il avait dit, à Kadosh Baruch Hu, il a un plaisir. Il a un plaisir à voir comment, même si on est dans l'obscurité, et même si on tâtonne, et même si c'est difficile, et ben quand même on fait des efforts, on essaye d'avancer. Vous savez à quoi ressemble ce plaisir? Ce plaisir ressemble, c'est comme par exemple, vous voyez un bébé qui essaye de marcher. Ça te fait plaisir de le voir essayer de marcher. Pourtant, il se casse la figure 15 fois. Mais t'es content de le voir se battre pour essayer de marcher. Vous voyez ce que je veux dire?
L'effort.
Et ben Kadosh Baruch Hu, il a du plaisir. Quand il voit qu'on est en exil, dans l'obscurité, et quand même on essaye de se relever et à chaque fois d'avancer, il a du plaisir. Et dans un discours que le Rabbi l'a fait, un dernier discours, le Rabbi, il avait parlé ouvertement à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais combien de plaisir à Kadosh Baruch Hu il va attendre? Ça, il a dit, comme ça, dans ses mots. Il a dit, combien, vif à la chure, combien à Kadosh Baruch Hu, combien, à quelle mesure, jusqu'à combien à Kadosh Baruch Hu il va avoir du plaisir? Bon, ça, c'est, je sais pas si nous, on pourrait avoir le cran de parler comme ça. Il faut être un tzadik pour parler comme ça, Kadosh Baruch Hu. Comme Moshe Rabbeinu, qui avait le cran de parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit pas accepter la situation dans laquelle on vit. Et comme disait le Rabbi, pour sortir de la galoute de ce monde-ci, il faut d'abord sortir du galoute dans lequel on se trouve intérieurement.
Notre
galoute. Et c'est la raison pour laquelle, après les 3 semaines dans lesquelles il y avait, pour Hanout, dans lesquelles on a rappelé la punition, d'accord? Viennent maintenant 7 haftara, d'accord, le chiffre 7, dans lequel de quoi on va parler?
Consolation.
La consolation. C'est quoi la consolation? C'est de montrer comment faire maintenant pour amener Mashiach. 7 haftarot qui parle de consolation. Comme Akadosh Baruch Hu nous dit que tout finira par bien se passer. Donc maintenant je reprends par rapport à maintenant on va s'arrêter maintenant sur le deuxième aspect de la déprime. Pourquoi une personne est déprimée? Il peut être déprimé soit pour des raisons, comme on a dit, physiques, ça veut dire il a un problème, Dieu préserve, avec les enfants, la santé ou la parnassa. Mais, deuxième type qu'on va expliquer aujourd'hui, il peut être déprimé pour des causes spirituelles. Par exemple, imaginez une personne, par exemple, qui pense à ses averot. Il pense à ses averot, voilà. Il réfléchit à ses averot, il voit qu'il avance, et il voit finalement, quand il fait un bilan, qu'il tombe toujours sur les mêmes averot. Au moment, il est déprimé, il se dit, ça suffit, je suis pas bien. Ad Matai, le même Ad Matai que nous on a dit sur le problème, il va se dire Ad Matai sur lui-même. Et donc, du coup, tellement il va être dégoûté qu'il avance pas, qu'il finit toujours par buter sur les mêmes problèmes, qu'il va être atsouv, il va être triste, il va être déprimé, il va être mélancolique. il va être dégoûté de sa vie. Il va dire, laisse tomber, j'avancerai jamais. Ça veut dire, quand on commence à teshuvah, quand on fait teshuvah, on est tout feu, tout flamme, on dit, ça y est, je vais réussir, je vais avancer, je vais casser la baraque, d'accord? Le feu, il va tout brûler, il va tout casser. Et quand après, avec le temps, progressivement, il voit que c'est pas le cas, alors il déprime. Pourquoi il tombe dans la déprime? Parce qu'il dit, ça y est, j'y arriverai jamais. Comment on fait pour enlever cette déprime? Là, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on a parlé de la déprime, une personne qui est déprimée, parce qu'il a eu des problèmes qui arrivent dans la vie, là, il peut dire, c'est passif le problème qui lui arrive, il n'y arrive pour rien. Donc là, effectivement, quand c'est un problème passif, on dit, écoute, dis-toi que Dieu, il sait ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Mais là, quand il est déprimé pour les problèmes que lui, il a fait, pour l'avérance que lui, il a fait, là, je ne vais pas dire, ça vient de Dieu, ça vient de moi, c'est moi qui les a fait. Alors, pourquoi tu veux que je sois pas déprimé? Vous me suivez? Quand tu dis, ne sois pas déprimé pour une épreuve que tu t'envoies, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, là, c'est vrai. Moi, j'ai rien demandé. Dieu, il m'envoie une épreuve. Là, on dit effectivement, Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais quand c'est moi qui me suis mis dans le pétrin, quand c'est moi qui me suis mis dans la gadoue, d'accord? Et qu'à cause de moi, maintenant, j'ai fait des avérotes et je suis tombé. Eh bien, si, au Hachem, à un moment, j'ouvre les yeux et je dis, mais mince, je suis dans la gadoue. Mais c'est tant mieux que je réfléchisse ça. Pourquoi, même dans ça, on te dit que tu ne dois pas être déprimé? Vous me suivez? Voilà, donc concrètement, ça veut dire, voilà, maintenant, par exemple, imaginez que demain après-midi, comme ça, je sais pas, demain après-midi, 14h09, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes à la boutique, je sais pas où vous êtes, et vous vous mettez tout d'un coup à réfléchir aux avérotes que vous avez fait. Et tu dis, mais attends, mince, ça fait des années que ça dure. Et tu commences à être déprimé de ça. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Évidemment, on a envie de répondre que c'est bien et c'est parfait. Tu dis, tu imagines, en pleine journée, j'étais même pas à la synagogue, c'est même pas le mois d'Eloul, j'ai même pas entendu le shofar, même pas Rosh Hashanah, et tout d'un coup, je suis dégoûté de mes avérotes, c'est très très bien.
Pardon.
Eh ben non. Vous allez voir aujourd'hui que c'est une mauvaise déprime, ça. C'est une déprime dévastatrice. On va expliquer pourquoi. D'accord. Donc là, je suis à l'étude du 22 Shvat, donc la page 14 en bas de la page. Ah, cependant, Atzvut Mimi Ledishmaya. Quand une personne est triste, Mimi Ledishmaya, à cause des choses spirituelles, quand une personne est triste et déprimée, à cause qu'il voit que ça avance pas, Tsarir Lashit Etzod Ben Navsho Lipater Mimena. Il faut chercher des conseils en soi, comme on va expliquer tout de suite, comment se débarrasser de cette déprime. Pourtant, pourquoi? C'est bien d'être déprimé. Qu'est-ce qu'il y a? Une personne, il réfléchit au avérot qu'il a fait. Personne n'y voit. Ben, il voit qu'il y a une avéra sur laquelle il bute tout le temps. Il sait qu'il bute tout le temps sur une avéra. Par exemple, il sait qu'il y a un certain domaine dans lequel il ne fait pas attention à 100% à la cache-route.
D'accord? Tu es en train de dire qu'il y a la prise de conscience des avérot,
oui.
Et il y a la façon dont on le prend.
Et ben voilà.
Et c'est la façon qui
compte. Imaginons, je vais donner un exemple. Imaginons par exemple quelqu'un qui a une faiblesse dans la cache-route. C'est possible, d'accord? Au fond de lui, il sait que c'est un problème. Mais à chaque fois, il n'arrive pas à se retenir, il prend ce qu'il y a et c'est tout, il mange. Ok? Et qu'un jour, comme ça, mardi, 14h09, aucun rapport maintenant. Il n'était même pas à la synagogue, ni faisait les teillim, ni sort d'un cours de Tania, rien du tout, aucun rapport. Tout d'un coup, il se met à penser, il dit, ah, mais je suis vraiment quelqu'un de pas bien, c'est très grave ce que j'ai fait. Oh là là. Très très grave, comment j'ai pu faire ça? Mais en plus, ça n'arrête pas, et tous les jours, et toutes les semaines, et ça n'arrête pas. Et comment ça pense à ça, Vera? J'ai envie de dire, mais colle à cavode, c'est magnifique. Imagine, en pleine journée, le bonhomme, aucun rapport. Eh ben non, te dit l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken te dit, c'est un piège du Yetzara. Retenez ce que j'ai en train de dire. C'est un piège du Yetzara qui cherche à te culpabiliser, qui cherche à te déprimer, qui cherche à te dégoûter de la vie, qui cherche à te faire croire que tu es un bon à rien. Et quand tu réalises, quand tu te convaincs que t'es un bon à rien, ben automatiquement le Yetzer Hara dit, ben bon à rien pour bon à rien, allez viens je te propose un truc sympa, regarde. Et tu plonges. Je plonge. Tu, crois-tu. C'est comme ça que ça marche. C'est malheureux mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pense jamais à sa verrotte, le mois d'Eloul va arriver. Alors quoi, le mois d'Eloul, je pense à mes verrotte, je dis non, je pense pas, même s'il a dit dans le cours, on va déprimer, on pense pas. Comment ça marche? Pourtant, c'est bien de faire teshuva. Alors, il faut penser ou pas penser à sa verrotte? Il faut qu'on donne un cahier des charges, un cadre, de dire, là tu peux pas. Telle heure tu peux pas. Tel jour tu peux pas. Telle réflexion tu peux pas. Il faut donner un cadre. Il faut définir les contours. Oui, il y a une question. Oui? Oui, vas-y, t'arrives. Raïm.
Du coup, si on n'y pense pas. Au final, on va se dire quoi? On va se dire, je dois pas y penser. Au final, on va pas prendre de réflexion.
Exactement, c'est une bonne question. Tu dis, d'un autre côté, une personne qui réfléchit jamais à ses lacunes,
prendra pas conscience.
C'est un peu comme une personne qui sort dans une affaire et qui fait jamais un inventaire. D'accord? ne pas faire d'inventaire, ben c'est la recette pour se casser la figure. À un moment, ben oui, ça veut dire à un moment, il faut faire un inventaire pour voir où ça va, où on va, etc. Sauf qu'il y a une différence. L'inventaire, tu le fais quand ? Combien de fois tu le fais l'inventaire par année ?
Une fois.
Ça dépend des boutiques. On va dire une fois par an ? D'accord. Une fois par an, tu fais un inventaire. Combien de temps il dure l'inventaire ? Ça dépend. Combien de temps il dure l'inventaire ?
3 jours.
2-3 jours ? D'accord. C'est quand en général ?
3 minutes.
Hein ? C'est quand en général l'inventaire ?
La fin du mois.
Donc c'est vers la fin de l'année ?
Voilà.
D'accord.
Non, mais ça dépend que.
J'ai compris. Bon, on va dire le grand inventaire, dans lequel on ouvre tous les classeurs, on voit tous les clients, tous les fournisseurs. On refait tout le bilan, on met tout sur la table.
La fin du cycle.
D'accord ? La fin du cycle. Donc on va dire une fois par an. On va dire par exemple, début décembre, c'est bon ?
Avant
les vacances, début décembre, on fait un bilan de 3 jours. Imagine-toi maintenant que début mars, tu dis tiens, on va faire un bilan. Alors que tu as fait un bilan, ça ne fait même pas 3 mois. Tu dis mais non, mais c'est bien, on va faire un bilan pour voir où on avance. Faut voir si on avance ou pas, non ? On est là pour gagner. On va faire un bilan. D'accord ? D'accord ? Eh bien ça, c'est une erreur.
Tu l'avais dit déjà.
D'accord ? Exactement. Ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'en vérité, ça, c'est une recette pour sombrer dans la déprime. Tu as annoncé en décembre. Voilà, je fais avec ça le bilan de l'année dernière, et avec par rapport, en se basant sur le bilan de l'année dernière, je fais un budget prévisionnel sur l'année qui va suivre. Et donc, je prends des actions, des mesures, pour prendre des nouvelles mesures, donc pour gagner plus, d'accord? Pour pas refaire les mêmes erreurs. Si tout de suite, je veux commencer à calculer, me retourner, voir, attends, où on en est, est-ce qu'on a avancé? C'est une technique, ça même, je vais me casser la figure. Parce qu'évidemment, tu vas pas avancer tout de suite. Ça marche pas comme ça. Il faut respecter les délais qui ont été fixés. Les délais qui ont été fixés doivent être respectés. Ça, on en avait parlé, comme tu dis. Maintenant, on va parler spirituellement comment ça marche. Quand une personne en pleine journée se met à penser à sa verrotte, il va se poser la question suivante. Est-ce que j'avais programmé maintenant de penser à ma verrotte ? Oui ou non ?
Non.
Non, alors tu oublies, tu zappes. Tu penses autre chose.
Zappe.
D'accord ?
Donc, le petit
tu n'y penses pas. J'ai pas dit qu'il était cachère.
Non, mais ça va, le jongleur, on l'oublie.
D'accord. Tu l'oublies. Attends Kippour, attends le mois des Louls, là on y pensera. Pourquoi? Parce que le mois des Louls est un mois programmé pour y penser. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ici, quand c'est pas un moment programmé, peu importe le moment auquel je réfléchis, que ce soit pendant mon étude, et la filou michou palasekim derecheretz, même si je suis en plein milieu des affaires, vous savez quand ça arrive comme ça. Ça peut arriver soit en pleine affaire, d'un coup tu penses à ta verrotte, ou ça peut arriver aussi en pleine fila. Tu fais la mida, d'un coup, et t'es là, tu sens un moment que ça décolle, tu vois. Là, chacun à son niveau.
Là,
et tu sens que ça décolle, et tac, le Yetzahara, il te met une image devant la tête, pour dire, regarde ce que t'as vu hier soir. Pac, tac, il te met une claque en pleine figure. Et toi, tu te dis, attends, ouais, c'est vrai, il a raison, pourquoi je pensais à ça hier soir? Allez, c'est fini, t'as plongé, t'es reparti. Il a gagné, c'est bon, il a gagné, t'as plongé, c'est fini, t'es déprimé. T'étais en train de décoller! T'étais bon, t'es en train de partir! S'il vient te déranger, c'est une preuve que t'as Amida, 2 secondes. S'il vient te déranger, c'est une preuve que t'as Amida, elle marchait.
Ben oui.
Et quand il voit que t'as Amida, elle marche, il dit, attends, je vais le calmer, celui-là. Là, on va lui rappeler ce qu'il a fait hier. D'accord? Mais ça marche pas comme ça. Quand il vient te mettre une bêtise dans la tête, tu lui dis, laisse-moi tranquille, je te connais pas. C'est une mitzvah, ce que j'ai fait hier. Dégage. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'il faut parler à son Yetzarara. Parce que vous verrez que dans le chapitre 29, il dit des mots très durs à parler à son Yetzarara. Quand ton Yetzarara, il t'embête, tu lui dis, dégage.
Tu sors.
Fous le camp, sors d'ici, je veux pas te parler. C'est pas le moment maintenant. Je pense pas à ma verrotte maintenant, je suis un grand sadique. C'est bon? Je suis le grand sadique, la planète prostate devant moi. Allez. Tu l'envoies balader, je veux pas te parler maintenant. Laisse-moi tranquille. Il y a un moment pour penser à ma verrotte. Mais c'est important ce que je vous dis. Parce que c'est une technique que le Yetzer Hara utilise pour nous déprimer. Quand il sent qu'on avance, tu vois, bah, on commence à avancer, on commence à faire son Shabbat, on commence à avancer dans la cache-route, on vient à des cours de Torah, on a les enfants qui sont à l'école juive, on commence à avancer, à apprendre, à commencer à dire un petit peu. Et pas que le Yetzer Hara met un truc dans la tête pour dire, mais laisse tomber, t'es un bidon. Faut pas écouter ça. Je voulais dire, je suis un grand sadique, moi. Je suis le meilleur. Je suis le top.
Champion
du monde. Je suis le champion. Je suis le boss. Faut lui parler comme ça. Après, quand ça arrive le moment du bilan, là, effectivement, on écoute, on fait ce qu'il faut faire. Monsieur Cohen.
La première fois, j'ai vu de Jacques Cohen.
Oui.
Comme par hasard, j'ai mis son revenu de Cohen.
Ah oui, évidemment.
J'ai été terminé de la tête de la ligne devant le vol, j'ai foncé.
Exactement.
J'étais
à l'usine. Ah oui. Mais ça vous le voyez quand vous savez, c'est quand par exemple vous êtes dans une grande amida, dans la Neila, dans Yom Kippour, Rosh Hashanah, une chose importante. Et c'est pour ça que vous remarquez par exemple dans la Tfila, à quel moment le Yetzer Hara nous envoie des bêtises dans la tête? À quel moment? À quel moment il vous envoie? Depuis le début de Odou, Baruch Shamar, jusqu'à Alenu. Quel moment est le plus opportun pour que la amida? C'est pas par hasard, ça. Pourquoi c'est là que la mida, pas qui t'envoie, pas forcément des bêtises, même des trucs. Tout d'un coup, tu m'as pensé, ah, faut pas que j'oublie d'acheter ça.
Voilà.
Quel rapport maintenant?
Bah oui.
C'est fini. Une fois qu'il t'a déconcentré, une fois que t'as perdu le focus, il est content. C'est bon, il a gagné. Après, parce que vas-y, le temps de te reprendre la concentration, c'est fini. Il faut des heures encore maintenant. Il a gagné. Il faut pas écouter de s'arrêter. Laisse-moi tranquille. Je suis un grand sadique maintenant. Ce qu'on dit dans les mots ici.
Ça, c'est pas l'inertie du cerveau. C'est
exactement. C'est pas l'inertie du cerveau. C'est le Yetzarara qui est là, qui veut me faire tomber. Et d'ailleurs, l'Admor HaZaken, il dit un mot très fort dans la suite. Il dit « Badouk ou Menoussé ». C'est-à-dire c'est quelque chose validé. Validé, on va dire presque scientifiquement. Que si une personne se laisse aller dans cette pensée de déprime de ses Averot, tu dis « C'est super, c'est magnifique !» Il est déprimé de ses Averot. C'est Badouk ou Menoussé que dans l'heure qui suit, le Yetzarara va lui proposer une Avera. C'est sûr à 1000%. Et vous pouvez le voir dans votre vie. Quand tu te laisses aller dans la déprime, quelques instants plus tard, le Yetzara, il dit, bon, ben maintenant, on va acheter ça là, on va faire ça. On va faire une bêtise. On va penser à une bêtise, on va faire une bêtise, on va parler, on va dire une bêtise, etc.
Pour se remonter le moral.
D'accord? Pour se remonter, exactement, pour se remonter le moral. D'accord? Ce qu'il dit ici, il dit, bon, allez, on va fumer un joint. L'avdil, hein, Dieu préserve. Je te donne un exemple pour parler par rapport au Yetzara. C'est le Yetzara, une fois qu'il te fait passer pour un imbécile, alors maintenant il dit, maintenant que t'es un imbécile, bah, comporte-toi comme un imbécile. Non, je suis pas un imbécile, je suis un grand sadique, moi, je suis le grand rabbin.
Ouais. Enfin, il est en train de te mettre à l'aise. Quoi.
Voilà. Non, c'est pas qu'il te met à l'aise.
Il te met à l'aise.
C'est qu'il te. Voilà, exactement, il te prépare à la vera. Ça veut dire, il te dit, il veut te préparer, il veut te donner une image de toi, et par rapport à ça, te faire tomber. Mais c'est un grand manipulateur, lui, de ça. Il manipule.
C'est une stratégie.
D'accord, c'est une stratégie. Alors, on continue. Il dit ici, l'Admor HaZaken, il dit que ça, en vérité, c'est une technique du Yitzhara, dans les mots. Alors, Beyadoua, je suis à la page 15. La ligne commence par Beyadoua. Beyadoua.
Quelque part, ça veut dire qu'on arrive à tenir, nous, à notre niveau.
Évidemment. C'est toi qui domine ton Yitzhara. Tu fais ce que
même
tu veux.
Si c'est pas tous les jours à 100%, quand même, on domine un petit peu.
Bien sûr qu'on domine. Mais il veut te faire quoi? Il veut te rappeler tes points faibles. Bien sûr, tout le monde a des points faibles. Qui n'a pas de points faibles?
Certains, ils dominent pas du tout.
Chacun a son niveau. Il veut nous rappeler à chaque fois les points faibles. Il dit voilà, regarde ce point faible. Et c'est vrai qu'on a tous des points faibles. Seulement quand on se concentre sur les points faibles, à force de répéter à quelqu'un, t'es un as, ben c'est un as. Quand tu dis à ton fils, d'accord? Quand tu dis à ton fils tout le temps, tu lui dis, quand tu dis à ton fils tout le temps, mon fils,
tu lui demandes de mettre les
mon fils, t'es un gagnant. Mon fils, t'es le super. Mon fils, t'es le premier de la classe. Et ben il finira par le devenir. Mais si tu lui dis à chaque fois, espèce de remard, t'es un bon à rien, tu comprends rien, eh ben, tu lui fais sortir les bons côtés, les mauvais côtés qu'il y a en lui. C'est comme ça, c'est malheureux.
Comme disait l'autre, quand tu es Nazareth.
Nazareth, pas mal.
Les acheter, elle est un peu naze.
Ah, attention. On a... Donc il dit, malade Morazaken, Beyadoua, c'est connu. Chez Zé ou Tarboula, Tayetzer. Il dit, je peux te dire, c'est validé, c'est sûr, à 1000%, que c'est une Tarboula à Yetzer. C'est un artifice, c'est une technique du Yetzerara qui te fait penser en plein milieu de la journée à tes Averot. Pourquoi? Kede la pilo acharkar betaavot rasvechalom, pour le faire tomber après dans les d'autres plaisirs. Kanoda, comme c'est connu. Et c'est malheureusement, c'est comme ça. D'ailleurs, vous savez, c'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? Première halakha. Première halakha, on te dit, shivit yachel menegdami. Tu mets Dieu devant tes yeux. Très bien. Et juste après, qu'est-ce qu'on te dit? Première halakha. Al yevosh pipne amal igim. N'aie pas honte de tous ceux qui se moquent de toi. Première halakha du Shulchan Aruch. Tu ouvres le Shulchan Aruch, première halakha. Première halakha, on te dit, mets Dieu devant toi, c'est normal, il y a toujours Dieu devant. Et après, première chose qu'on te dit, mets les tefillines, pense à ta verrotte. Non, première chose. N'aie pas honte de tous ceux qui se moquent de toi. Qui c'est qui se moque de toi? Il y a plein qui se moquent de moi. Moi-même, je peux me moquer de moi. Mon Yitzhara peut se moquer de moi. Mes amis peuvent se moquer de moi. Ouais. Mes anciens amis, quand j'ai fait Teshuvah, peuvent se moquer de moi. Tout le monde peut se moquer de moi. On te dit, n'écoute personne. Quand, par exemple, personne fait Teshuvah, et que les anciens amis qui lui disent, tu le fais le rabbin là maintenant là. Allez, arrête tes histoires là. Tu fais le rabbin là comme ça là. Arrête tes histoires. Allez, viens, on va te rappeler ce que tu faisais avant. D'accord? On va te rappeler ce que tu faisais avant. Et c'est gênant. Parce que c'est vrai. Tu crois que l'autre il a oublié ce qu'il a fait? Bien sûr qu'il a pas oublié. Et tu le rappelles. Ah, mais vous croyez, lui, il est rabbin. Mais moi, je vous racontais, moi, comment il était, lui, ça fait 10 ans. Bah, il était avec nous. C'était le meneur. C'est lui qui nous prenait.
Ça, c'est pas un ami, ça.
D'accord? Et il le pense réellement. Et ça, c'est quelqu'un qui est malhérique, c'est un moqueur. Eh ben, une personne qui avance dans la Torah, il doit savoir qu'on doit pas avoir honte de ceux qui se moquent. Nous, on doit savoir qu'on avance, on a un plan, on avance. Et même si tout le monde, le monde entier se moque de toi, dit, laisse tomber, t'es un rachat, j'écoute personne. J'avance. Quand arrivera le moment du bilan, je ferai le bilan. C'est tout. Sheim Loken, parce que sinon. Mais Aïn Baalo Atzvut Amitit. Il dit, c'est très simple. Il dit, pose-toi la question. Pourquoi tu penses que mardi à 14h09, tout d'un coup, tu penses à ta Averot? Tu crois que t'es vraiment un grand sadique comme ça, hein? Tu t'es pris pour un grand sadique maintenant? Du style, tu vois, au lieu de penser à des Averot pendant la Amida, maintenant il pense à des mitzvot pendant son travail. Ah, grand sadique. Mais t'es pas un sadique, qu'est-ce que tu crois? Il dit, tu crois que tout d'un coup, maintenant, en pleine journée, tu penses à ta Averot? T'es devenu un grand sadique, en pleine journée, il est dérangé. Comment j'ai pu faire une Avera? Mais laisse tomber, t'es pas un sadique. C'est l'Yetzara qui revient pour la Avera suivante. Et c'est Badouk ou Menoussé, c'est quelque chose qui est validé, qui est clair. Ce qui est dit ici. Pourquoi tu crois? D'où tu viens? Me'aim ba'alo atzvut amitit. Me'chama tavat Hashem o'irato b'emtsa sakav. D'accord? D'où elle vient tout d'un coup cet amour? Tu crois que tout d'un coup, en plein milieu de tes affaires, t'as pensé à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu? Aucun rapport, laisse tomber. Maintenant. Diveine. Ben, shenaflalo atzvut bishat avoda. Betalmut torah betfila. Ben, shenaflalo atzvut bishat avoda. Il dit. En ce qui nous concerne, ça change strictement rien si la pensée de teshuva que j'ai eue est venu quand j'étais en train d'étudier, quand j'étais en train de prier, quand j'étais en train, par exemple, de faire mon travail, peu importe. Là, je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, que vous venez à un cours de Torah, cours de Tania. Et que dans le cours de Tania, on parle d'un sujet. Un sujet, on donne un exemple, une avéra spécifique. Il y a, par exemple, quelqu'un qui a fait une avéra. Et ça, c'est une avéra que tu as fait.
Et tu y penses.
Tu dis la vérité, c'est vrai, il a dit que c'est grave. Oh, comment c'est, pourquoi j'ai fait ça, etc.
Et tu oublies.
Laisse tomber. C'est la vie. On te dit, même quand c'est un moment comme ça, où une personne en parle, où tu lis dans un livre où on en parle, ne pense pas à ce que toi tu as fait. Pense à la chose, mais ne pense pas à ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, je dois y penser uniquement, comme on a expliqué, dans des moments qui sont programmés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, les tsars, c'est un professionnel pour ça. Et si, par exemple, je suis à un cours, j'écoute un cours, on parle de quelque chose. Hop, c'est fini, je dis, ah, mais attends, la vérité, j'ai fait ça, moi. T'écoutes un cours, tu lis un livre, t'entends quelqu'un parler, t'entends un autre qui a fait cette bêtise, et tu dis, ah, bah, tiens, moi aussi, je l'ai faite. Laisse tomber, n'y pense pas. Tu penses à autre chose. D'ailleurs, vous savez, la seule façon de ne pas penser à quelque chose, c'est quoi? Comment on fait?
Pense à autre chose.
Bah oui. Ça marche pas. C'est rapproché. Yom Kippour Katan, par exemple, c'est fait pour ça.
D'accord. Il y a des moments pour ça. Il n'y a pas de problème.
C'est tous les mois.
Quand ça, il y a pas de problème. Tant que c'est programmé, c'est programmé. Je vous garantis qu'au moment où c'est programmé, quand on essaie de le faire, ça prend du temps à arriver. Ça, c'est la preuve. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois en pleine journée comme ça, 14h09? Et tout d'un coup, hein, il pense à sa vente. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu crois? Quand c'est Avraham Kippour, on prend des heures et des heures pour que ça rentre, et là tout d'un coup, il réfléchit en pleine affaire. C'est le Yitzhara qui est là, qui veut nous faire tomber. C'est clair. Badouk ou Menoussé. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, maintenant, peut-être que la personne a fait des avérotes très graves. Il dit, maintenant, non. J'ai compris, Mendy, il a dit au cours de Tania, mais moi, la avérote que j'ai fait, elle est vraiment grave. Je peux pas attendre comme ça jusqu'à Kippour. Elle est grave, il faut y aller tout de suite. C'est un drame, il faut s'en occuper tout de suite. On peut pas repousser ça. Ça repousse tout. Non, ça marche pas comme ça. Quand on parle à un Baal Teshuvah, on lui dit, maintenant, tu te retournes pas. Tu avances. Non, mais on est tous Baal Teshuvah. Par rapport à nos Averot, on est tous Baal Teshuvah. On lui dit, maintenant, tu te retournes pas, tu avances. Quand viendra le moment où tu vas te retourner, là, tu te retournes. Ne te retourne pas. C'est comme ça qu'on tombe. Et si la vérité, si on avait écouté ça, beaucoup de Baal Teshuvah auraient tenu plus. On est tous Baal Teshuvah. On aurait pu tenir beaucoup plus facilement.
Ça ramène plus.
D'accord. Allez, Chaim. Elle a entendu le verre. Chaim. Allez, j'en ai.
T'as la voiture.
Ouais, ouais. Voilà. M'a servi. Chaim.
J'ai mis mon réveil pour demain.
Il va trop tard.
Non, t'as pas envie de faire ça.
Je programme ma chouba pour 14h09.
Ah, d'accord,
ok, je vais programmer.
Il va mettre au four une zaps.
Ça va se lire, elle va sortir du four, pas cuite.
Donc, dis-la de Morazakaen. Page 16. Zot Yassim El Libo. Voilà ce qu'il doit se dire. Qui en Azman Grama Kaet la Zout Amitit. J'ai pas le temps maintenant d'être triste. C'est un luxe de se permettre de tomber dans la déprime. C'est un luxe d'être déprimé. C'est un luxe, qu'est-ce que tu crois? C'est un luxe. J'arrête maintenant. Je pense à plus à rien, je pense à moi. Voilà. Ça s'appelle la déprime, ça. Quand il dit, mais regarde, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, mais c'est très grave, mais j'ai. Très souvent, en vérité, la déprime, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est la vérité, mais c'est de l'orgueil. Oui, moi, je crois...
Tu dis orgueil.
Soit c'est de l'orgueil.
C'est de l'égocentrisme.
C'est de l'égocentrisme. Et soit c'est dans le but de me faire tomber. Il faut arrêter de penser à ces bêtises.
Ça veut dire que quelqu'un, dans ta perception de la chose, quelqu'un qui est déprimé,
oui. Alors ça dépend pourquoi.
À l'être.
Ça dépend pourquoi il est déprimé. Non, non, non,
et
pas du tout. Ah, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui accepte de le rester. Tu me suis ?
Ça, oui.
Voilà. La déprime, elle te tombe, parce que c'est comme ça. Tu te mets à penser. Après, c'est moi de décider. Est-ce que je plonge ?
Ça veut dire que tu entretiens.
Si tu veux, le Yitzhara, il m'envoie des pensées. De la même manière qu'il m'envoie des pensées avec des filles, il m'envoie des pensées avec ma vérote. Il me dit, regarde la vera que t'as fait. Bah, il pense ça. Alors, c'est à moi de décider. Soit je plonge. Dans ce cas-là, je suis dégoûté de ma vie. D'accord ? Soit je plonge pas. C'est moi qui décide. Je suis déprimé tant que je veux être déprimé.
Est-ce qu'on entretient ou pas la chose ? Il ne faut pas.
Bah, évidemment, il ne faut pas entretenir. Surtout pas, surtout pas. Même si c'est en pleine fila, même si c'est en pleine étude, et même si je suis en train d'étudier le sujet en question.
Oui, parce que ça te fait penser à ça.
Voilà, c'est pas le moment. Je me dis, c'est pas le moment. Maintenant, je dois pas y penser à ça. C'est ce qu'il dit ici. Zot Yassim El Libo, je reprends la page 16. Il doit se dire, qui en Azman Grama Kaet. Pas du tout. C'est pas un appel de phare. C'est un appel à la faute, oui.
Alors. C'est-à-dire, dans l'étude, comme de par hasard. On parle exactement.
C'est
de,
pas le moment.
De, mais alors,
c'est pas le moment.
Ça, c'est exactement.
Non. Pense par exemple comment tu peux t'améliorer. Tu comprends? Par exemple, se dire, la vérité, il a raison lorsqu'il a parlé dans le cours, j'ai un défaut sur ça, voilà ce que je peux faire pour améliorer. Ça n'est pas de problème. Ça veut dire penser vers l'avant. Tu vois, par exemple, je suis en train de conduire, d'accord? Et on me dit, écoute, j'entends les informations, on me dit, attention, il y a un problème, il y a un embouteillage là-bas. Il y a, j'ai entendu, j'anticipe. Ça n'est pas de problème. Mais de dire, ah, il y avait un embouteillage, ah mince, j'aurais dû prendre cette route-là, mais laisse tomber, ah, mais si je savais, j'aurais dû retourner, laisse tomber, t'es dans la route, qu'est-ce que tu vas regarder derrière maintenant? Et oui, mais tu sais, dommage, mais j'ai raté, ah, mais quel dommage, mais si je savais ça à 2 heures, j'aurais gagné du temps, et vas-y, pique une crise maintenant, vas-y, énerve-toi.
Donc en réalité, c'est pas ignorer les choses, hein, c'est tourner dans l'autre côté, quoi. C'est pas ignorer, c'est
d'aller aller vers l'avant. Voilà. Mais malheureusement, le Yitzhara, à 14h09, David l'a programmé, à 14h09, il te dit pas, viens, on pense maintenant comment on fera mieux les choses dans la suite. Il dit, viens, on pense à la gravité de ce qu'on a fait hier. D'accord ?
En fait, il faut se dire, c'est fait maintenant, fait les choses pour améliorer.
Ce qui est fait, est fait. D'accord ? De toute façon, c'est mort maintenant. Ça, c'est mort, c'est terminé. Et là, teshuva. On fait pas teshuva, là ?
Ah oui,
le gars, il casse tout, il avance, tu vois, sur le compte du patron. Comment ça marche ?
Non, mais tu expliques la même chose, ça veut dire qu'il y a un moment pour faire.
Voilà, il dit seulement, il dit, c'est ce qu'il dit ici, l'admor Azaken, paragraphe suivant, rac seulement. L'azote, tsarir, kviyut, itim, ushata kosher. Pour ça, il faut fixer un temps. Ushata kosher. Et dans un moment, tu s'y prêtes. C'est-à-dire, c'est pas comme ça, je suis en plein en train de faire une pizza et tout d'un coup je pense à ça. D'accord? Non. Il faut un moment spécifique que je sais que je pourrais me concentrer et que je sais que je pourrais maîtriser mes pensées. Par exemple, chez moi à la maison, tranquillement, dans un coin tranquille. Quand je serai par exemple dans ma voiture, en train de conduire, seul. Je sais pas, chacun il va se connaître dans les moments comme ça qui sont des moments dans lesquels il a une intimité. Et dans un moment comme ça, je dis, à ce moment-là, j'ai décidé que j'y penserai à ma vérote. Ah, pas de problème, t'as programmé, vas-y, tu peux y aller. Ça peut être, la fréquence peut être une fois par jour, peut être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, et pas de problème après. Tant que c'est programmé, c'est programmé. C'est programmé, ça vient pas tout seul, ce qu'il dit ici. Et là, effectivement, d'accord? Là, effectivement, Beishuv Adat, on le fera de manière méthodique, de manière calme, de manière posée. Leit bonen bigdulat Hashem Asher Hatalo. Et là, qu'est-ce qu'il va réfléchir? Il va pas réfléchir de façon égocentrique, de dire, j'ai fauté, comment c'est grave que j'ai fauté. Non. Il va se dire, comment Dieu est grand. Et Dieu, il est tellement grand, comment j'ai pu faire ça à Dieu qui est tellement grand? Vous voyez la différence? C'est pas, moi, c'est grave ce que j'ai fait, je vais être puni, et c'est pas bien ce que j'ai fait, il y a que le jeu. Non. Tu réfléchis comment Dieu, il est grand. C'est comme ça qu'un racine, il fait tchouva. Un racine, il fait tchouva pas en pensant, comment c'est grave ce que j'ai fait, et je vais me taper le guénome sur la tête, et je vais souffrir, et on va m'embêter à moi. Comment c'est possible? Non, c'est pas comme ça qu'on fait tchouva. Moi, de toutes les façons, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que c'est moi? C'est qui moi? C'est rien du tout. Moi, je suis un microbe, je suis rien du tout. Je réfléchis par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme ça qu'on fait tchouva. J'y mets, attends, t'imagines? Dieu, il est tellement grand, Dieu, il est tellement important. Dieu, c'est un roi. Dieu, c'est le roi du monde, c'est le roi des rois. Est-ce que devant un tzaddik, tu te serais permis de faire ce que t'as fait devant un Kadosh Baruch Hu? Imagine-toi maintenant. T'as le rabbi qui est devant toi, qui est là sous ta couverture, t'aurais fait ce que tu as fait? T'as le rabbi qui est là dans ta tête, t'aurais fait ce que t'as fait? T'as rabbi Shlomo Aruchai, t'as Baba Salé, t'aurais fait ce que t'as fait? Évidemment que non. Alors quoi? D'un tzaddik, on a peur et de Dieu, on n'a pas peur? Là, c'est autre chose. Ça veut dire, ce qui me pousse à faire teshuva, hein, c'est pas la peur et la déprime égocentrique. C'est réaliser comment Dieu est tellement grand et comment devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on peut pas faire des choses comme ça. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que je me sens tellement petit que je dis, mais je peux pas faire ça, ça se fait pas, on peut pas faire des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait teshuva. Maintenant, vous comprenez que ça, ça vient pas à 14h09, ça. Ça, pour ça, il faut de la préparation. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est ce qu'on fait pendant les slichot. Qu'est-ce qu'on fait pendant les slichot? On exprime comment Dieu il est grand, comment Dieu il est fort, à Gadol, Gibor, comment il est redoutable, etc. Et après, tellement tu exprimes comment Dieu est grand, que tu dis, mais attends, mais moi je suis tout petit, tu dis, mais je vais me cacher, moi. C'est parce que, en toute l'année, on a pensé qu'à nous, et là, quand tu commences à penser à Dieu, et tu réalises qu'il est très grand, et que nous, on a fait des bêtises, tu dis, oulala, j'espère qu'il m'a pas vu. Mais bien sûr qu'il t'a vu. Et là, effectivement, on se sent sale. Là, c'est une chose. Mais c'est pas, on se dit, ah, j'ai peur qu'il va me punir à moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est égocentrique, ça. Et quand c'est égocentrique, automatiquement, on sombre dans la déprime avec ça. Un chassid, après la chassidoute, on apprend qu'on doit jamais sombrer dans la déprime. Même quand on a d'Averot, même si c'est le mois d'Eloul, même si Yom Kippour. Toute l'année déjà, on pense pas à ces Averot. Et même dans le moment programmé, je pense pas à mes Averot en tant qu'Averot pour la punition. Je pense comment Dieu est tellement grand et comment j'ai pu me salir. Et donc là, dans ce cas-là, je réfléchis positivement. Vous savez, quand par exemple, tu réfléchis que t'avais quelqu'un qui était très important qui était devant toi, et tu réfléchis que t'as fait une grosse gaffe, tout de suite, tu te dis, mais comment je peux réparer? Qu'est-ce que je peux faire?
Faut que je me reprenne.
Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est bon. Ça veut dire que même ma déprime, même ma teshuva, a une connotation constructrice, positive. Ça, c'est bon. Mais si c'est un pour dire, ah, le Bethlehem, j'ai été détruit, on est des losers, laisse tomber, on est mort, c'était comme ça il y a un siècle, il y a deux siècles, ça sera comme ça en deux siècles. Qu'est-ce que tu crois? On va avancer comme ça? Tu crois que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien ton deuil. Allez, il est terminé maintenant ton deuil. Ça sert à rien. Il faut tout ce qu'on doit faire dans la vie doit être constructif. Même le deuil doit être constructif. Voilà où j'en ai arrivé tout à l'heure. Même le deuil doit être constructif. Même la pensée de la Avera, dans un moment programmé, doit être constructif. Et ça, c'est la raison pour laquelle, si maintenant, un juif, il a envie maintenant, aujourd'hui, ce soir, là, à 21h35, 36, il a envie maintenant de dire, tiens, maintenant, je vais lire les Kina de Tisha B'Av. Je vais lire Echa. Tiens, on va lire Echa maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il va lire Echa. Il va dire, voilà, Echa. Il va se mettre par terre. Il va déchirer les vêtements. Pourquoi tu veux le mettre à Migdash? C'est super. C'est super. Bah, au Hachem. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est super. Il y pense de se mettre à Migdash alors que c'est terminé Tisha B'Av. Ben, tu dis non, maman. C'est terminé. Tu penses plus à ça maintenant. Maintenant, tu penses plus à destruire du Beth Amigdash. Maintenant, tu vas penser à la construction. Tu vas penser à construire. Le moment pour penser à la destruction, il est passé maintenant, c'est terminé. L'heure est passée, c'était hier. C'est un point important ça. Ne pas penser aux échecs. Ne pas penser à son échec. Et même quand ça m'a programmé, je pense à l'échec pour réfléchir comment je peux le réparer. Pas réfléchir à l'échec en tant qu'échec. C'est ce qu'il dit ici. Kedesh al yedeze, yé nishbo, libo nishbar bemet virot amitit. Et là, quand tu réfléchis comme ça, là ton cœur, là son cœur, notre cœur, va être réellement brisé. Bishmirut amitit avec une vraie amertume. Pas une amertume égocentrique. Une vraie amertume. Quand tu réfléchis que j'ai de la peine que j'ai fait une avéra, ça me fait de la peine, j'ai honte. Là, automatiquement, c'est une vraie amertume. Je vous donne un exemple. Quand on est devant un tzaddik, on a peur. Est-ce que j'ai peur qu'il va me frapper?
Non.
Alors, c'est quoi comme peur? C'est la peur. C'est la peur. On appelle ça en hébreu irad boshet. C'est la peur, la crainte révérentielle. C'est la peur de la honte. Mais non, mais c'est même pas, qu'est-ce qu'il va me faire? Me punir, me dire, ah, je t'ai vu, t'as fait ça.
Il peut en parler.
Mais c'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'il va en parler. Tu crois qu'il va en parler?
Non.
Hein? Tu sais, tu vois, il passe à côté, il dit, ah, on regarde pas, hein, parce qu'il ne voit pas. Tiens, là, on regarde pas.
Non, mais quand il l'a vu.
Il a déjà vu, avant que tu viennes, après que tu, d'accord? Tu sais, c'est de ce qui vient le scan. Il a déjà vu avant que tu viennes, après que tu viennes, il a déjà tout vu. Et même ce que tu veux pas montrer, il a déjà vu 15 fois et 1000 fois. Alors seulement quoi? De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'il va raconter à tout le monde. J'ai peur qu'il va me dire, je sais qu'il a déjà vu. C'est pas shoot. J'ai honte. J'ai honte. Parce que je sais qu'il regarde et je sais qu'il voit tout. Et je sais qu'il voit que je suis sale. Et j'ai honte. Comme par exemple, imaginez vous êtes taché avec des excréments partout sur vous, sur la chemise. Là. La chemise blanche, tachée pleine d'excréments. Je serais venu ici comme ça. J'aurais honte. J'ai dit, attends, ça se fait pas. Mais imagine toi, quand t'es devant un tzadik, c'est la même chose. Tu dis, mais je suis plein d'excréments là. J'ai honte, ça se fait pas. J'ai pas peur qu'il va me frapper. Quand je viens avec la chemise tachée, j'ai pas peur que vous allez me frapper. Ça se fait pas, c'est tout. De la même manière. Quand un chassid, il fait tchouva, il fait pas tchouva en disant, oh là là, je suis sale, mais qu'est-ce que je vais faire? On va me frapper parce que je suis sale. Non, il dit, j'ai honte. C'est grave.
Heureusement, il y avait une.
Attends. Yom Kippour. Ça c'est Yom Kippour. D'accord. Ça c'est Yom Kippour.
T'es en forme. Hein.
Yom Kippour.
Dany de couleur ou pas?
Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais c'est comme ça que vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, ça fait trois semaines. Nickel, je rappelle ça dans l'histoire. Quel itrache, ça fait deux semaines, trois semaines, etc. Il me ressort des cours de trois mois. Alors, dans sa tête, c'est les notes. Alors, par exemple, vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée avec le Chazan du Baal Shem Tov, quand il était en déplacement. Et qu'est-ce qu'il avait marqué, ce Chazan du Baal Shem Tov, c'est que, qu'est-ce qu'il avait marqué, pardon, chez le Baal Shem Tov sur ce Chazan, c'est qu'il chantait Hachem nous. Il chantait nous en faute. Vous vous rappelez l'histoire avec l'histoire avec le roi, etc., le serviteur du roi, qui d'un côté il pleurait, d'un autre côté il était content. C'est ça, la pshat. Et c'est comme ça qu'Achassid, il doit faire cette teshuva de Yom Kippour, etc. Donc maintenant, pense pas au Averant, c'est terminé. D'accord? Maintenant, qui me voit et zob ma komacher. Maintenant, la question.
Tu peux pas avoir une autre chemise?
Quoi?
Tu peux pas avoir une autre chemise, c'est plus simple.
Mais le problème, c'est que c'est pas la chemise, c'est mon corps.
Ouais, ça va.
Elle change de corps.
Eh non, c'est mon corps. C'est terminé, c'est mon corps. Il y a des balafres partout, ça saigne partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Je peux pas, on peut pas changer. Il y a la personne à l'intérieur, c'est sale. C'est plein d'excréments. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est sale. Je dis pas que c'est propre, c'est sale. Mais d'abord, j'y pense pas. Et quand j'y pense, je pense au fait que qu'est-ce que je peux faire pour nettoyer? Toujours, la démarche doit toujours être positive. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quels sont les moments qu'on doit programmer? Ça, c'est la question. Alors, chez Hassidi, ils m'ont dit comme ça. Soit, le moment où on programme, c'est tous les soirs quand on fait Kriyat Shema à la mita. Chez Hassidi, ils m'ont dit que quand on fait le Kriyat Shema le soir avant de dormir, je parle pas du Kriyat Shema de Harvit. C'est un moment de bilan. C'est un mini bilan. Il y a des affaires dans lesquelles il y a le bilan annuel et il y a un mini bilan. Comme tu vois, tu as fait la caisse à la fin de la journée, tu appuies sur un bouton, tu sors un ticket, comme ça marche, hein.
Et tu fais disparaître les
écrans. C'est toi la main.
L'évaporation.
Et tu dis, attends, non, il y a une ligne en trop là.
Tu peux que ça.
Alors, t'as le bilan quotidien. T'as le bilan quotidien. D'accord? Pas pour jeter le ticket, pour le garder. Parce que, Akadosh Baruch Hu, hein? Akadosh Baruch Hu, on peut rien effacer chez lui. Donc, ça peut être ça tous les jours. Tous les soirs, quand je fais mon Kriyat Shema Lamita, chez les Chassidim, alors, on appelle, au passage, on appelle le Kriyat Shema Lamita, mais c'est un Kriyat Shema qui est pas fait forcément sur le lit. C'est un Kriyat Shema qu'on peut faire. D'ailleurs, même chez les Chassidim, on a même l'habitude de le faire avec le chapeau habillé, et la veste. Habillé. On le fait, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de la kavana qu'on veut y mettre, bien sûr. Et on peut le lire en 1 minute, hein, c'est pas la question de, voilà. Si on met des bouchées d'eau, on peut le lire en 30 secondes. Mais c'est pas la question. La question n'est pas de lire le schéma. D'accord? La question n'est pas de lire le schéma. La question est pensée pendant le schéma. Kavana. Il y a des kavanotes. Lisez la traduction du Kriyat Shema. Il y a des textes avant, après. Des textes dans lesquels on fait un bilan de la journée. On dit à Kadosh Baruch Hu, je suis mochel à tout celui qui m'a embêté, je te demande de me pardonner, voilà ce que j'ai fait, Hacham nous avons fauté, c'est un mini vidouille. Ouais. Vous savez, avant de mourir, tu préserves, on fait un vidouille.
On fait pas Hacham nous,
d'accord?
Comment tu veux faire
un... Avant de mourir, attendez, avant de mourir, un vidouille.
Pourquoi tu as la date?
Quand une personne sait qu'il va mourir, on lui fait le vidouille. La confession, bien sûr. Personne. Sur le lit de mort, on fait le vidouille. Le chemin Israël, le vidouille. Bon, malheureusement, que tu connais jamais ça. Mais c'est la réalité, ça se passe toujours comme ça. Donc, quand il y a un vidouille, avant de mourir, on fait un vidouille. Ce vidouille, c'est le bilan de fin de vie. D'accord? T'as le bilan de fin de vie, t'as le bilan annuel, ça s'arrange à Shana Kippour. T'as le bilan mensuel, le bilan de clôture. Ouais.
Semestriel, mensuel.
T'as le bilan mensuel, ça c'est le bilan de la veille de Rosh Chodesh.
Quotidien, mensuel.
D'accord? T'as le bilan hebdomadaire. Chez les Chassidim, ils ont l'habitude de faire ça jeudi soir. La nuit de jeudi soir, on met un peu plus de temps que d'habitude. Voilà, je vous donne une technique. Jeudi soir, on met un peu plus de temps que d'habitude dans le Kriyat Shema. D'accord? Parce que c'est un bilan hebdomadaire, pour se préparer à Shabbat. Chez les Chassidim, ils ne dormaient pas jeudi soir. Quand on était à l'Yeshiva, jeudi soir, soit on ne dormait pas, soit on allait dormir à 4h du matin, on se réveillait à 7h. On ne dormait pas. Ça veut dire qu'on se préparait, c'est un moment dans lequel on se faisait un bilan, et on se préparait pour le Shabbat. Bilan hebdomadaire. Ça peut être aussi un bilan. Moi, j'ai vu de mes yeux des Chassidim comme ça, un soir classique de la semaine, et c'était au 770 par exemple, tu les vois, ils passent une heure à faire son schéma. Une heure. Et c'est pas qu'il sait pas lire, hein. Le gars, il te lit très vite. Une heure à faire son schéma. Parce que c'est ça le schéma. Le Kriyat Shema du soir, c'est quand... Non, pas très justement. Il aurait pu le lire très vite. Parce que, justement, parce que chaque mot, on réfléchit. Mais c'est pas un moment... C'est-à-dire comme ça, c'est pas le gars, il va être là devant tout le monde, il va dire... Ah, Hachamnou, regardez-moi, tu sais, alors regardez-moi, je... Non, sa maman, t'es dans ton coin, c'est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça concerne ni ta femme, ni tes enfants, ni tes voisins, ni tes amis, ça concerne personne. Ça concerne toi. Maintenant, si une personne, par exemple, il dit, moi je fais mon Kriyat Shema, après quand je suis sous la couverture, là je vais penser à ma Averot. Enfin, pas à ma Averot, je fais un bilan de la journée. D'accord? Chacun, il se connaît. Il se connaît un moment qu'il a une intimité. Un moment où il peut avoir une intimité qu'il peut penser. Donc ça peut être soit une fois par jour, encore, enfin, on va dire, déjà une fois par an, c'est sûr. D'accord? On va pas parler de la fin de vie. Ouais. Une fois par an, ça c'est sûr. Ça c'est le mois des loups, la partie du mois des loups. Une fois par mois, c'est encore mieux. Une fois par semaine, c'est encore mieux. Et une fois par jour, c'est encore mieux. Plus que ça, c'est mort.
Une voilà. fois par an, c'est quoi? C'est Kippour.
Kippour.
Une fois par mois, c'est Rosh Chodesh.
La veille de Rosh Chodesh. Veille de Rosh Chodesh.
Une fois par semaine, c'est quoi?
C'est le jeudi soir. Jeudi soir.
Une fois par jour, c'est la nuit.
C'est le soir avant de dormir. D'accord? Ce qu'il dit ici.
Avec la bouche?
Ce serait bien qu'on fasse tout ça.
Ça change rien.
Moi, quand je travaille pas le lundi soir, c'est dimanche.
Tu veux le midi de le. Tu m'as dit, quand tu as dit dans un cours précédent.
Ce serait bien qu'on fasse tout ça.
Encore. Les paroles.
On veut les dates, on veut documenter, nous.
Il y a un an et demi à peu près. Tu as dit il y a un an et demi à peu près que l'action. Ça vaut. Quand tu fais la tchila,
normalement.
Avec la lèvre, ça vaut rien.
Mais là, c'est pas une tchila. Là, c'est un but de. Réaliser, introspection, réaliser la gravité de ce que j'ai fait et réfléchir comment je peux faire pour que demain sera mieux. Tu sais, on raconte comme ça, je vais t'expliquer comment ça.
C'est quoi la différence avec la tfila et ce que tu viens de dire?
C'est que la tfila, c'est une mitzvah, je dois dire quelque chose à Kadosh Baruch Hu, ça je dois le dire.
Et puis, y a les
mais là, c'est pas quelque chose à dire. Il n'y a pas de temps, de moment donné. Je dis pas, ah, la confession, pas, je vais dire, je dis pas, pardon, la réflexion doit durer 5 minutes, 10 minutes. Elle peut durer 30 secondes, comme elle peut durer 2 heures.
Ouais, je comprends,
mais c'est personnel.
Question, elle est, quand tu dis, je dois dire, je dois faire une fila à Kadosh Baruch Hu. Je dois lui dire à Kadosh Baruch Hu. Mais je parle, si je parle à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas besoin que je bouge mes lèvres pour savoir ce que j'ai dans mon cœur.
Oui, tu as raison.
Donc, que je, non, comme tu me dis, quand je fais une introspection et que je me parle à moi-même pour essayer de me sortir tout ce que j'ai fait de bien ou tout ce que j'ai fait de mal pour essayer de le transformer en quelque chose de positif, c'est, je me parle à moi-même, mais en réalité, je lui parle aussi.
Tu as raison. Donc, des fois, mais des fois, tu as raison. Conscience. Normalement, il n'y a pas besoin de parler. Ça, c'est pour moi. Mais des fois, le fait de parler, exactement, des fois, le fait de parler, ça me permet de mieux réaliser. Par exemple, quand tu fais un bilan, tu aurais pu le faire dans ta tête, le bilan. Mais quand tu prends un papier, un stylo, d'accord, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. C'est plus structuré. Comment? Parce que le fait de, alors, tu sais, on raconte que chez les chassidim, c'est pas terminé encore. Non, là, c'est pas, on va ranger. Merci, c'est gentil. On vient de terminer là, 2 minutes. On raconte qu'il y avait un chassid tous les soirs avant de dormir. Il avait l'habitude, après son Kriyat Shema Lamita, il mettait un coup sur le mur, comme ça. Il avait son lit, il y avait le mur à côté. Il mettait un coup sur le mur. Il disait, demain, ça ira mieux. Comme tous les soirs. À la fin, il commençait à avoir un trou dans le mur. Attendez. Mais c'est très important ce qu'il dit sur Chassid. Écoutez bien. C'est que, il y a des gens qui se disent, ils vont dormir, et ils disent, bon, demain, ça ira mieux, demain, on fera. Et demain, qu'est-ce que tu vas dire demain? Après-demain, ça ira mieux. Ça marche pas comme ça. Pour que ça marche, écoutez bien, il faut que ce soir, je dis, voilà, je commence maintenant et voilà ce que je vais faire demain.
J'arrête de boire.
C'est-à-dire que tu engages déjà.
Parce que sinon, quand tu dis demain, on commence le régime, demain, j'arrête de boire, demain, j'arrête de fumer, eh ben demain, il dira demain aussi. Ça s'arrête pas.
Demain, j'arrête de faire rien.
D'accord? Il faut toujours dire maintenant. Parce que Imlo Arshav, et ma taille. Si c'est pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Je vous donne encore une autre anecdote. On raconte sur un chassid. Il y avait aussi un chassid comme ça. Hein. Il est venu voir une fois le rabbi. Il a dit, voilà rabbi, j'arrive pas à avoir la kavana dans la tefila. C'est trop compliqué pour moi. Bon, concrètement, pour moi la tefila c'est une cérémonie où on tourne les pages. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Le rabbi lui a dit, c'est très simple.
Ne tourne pas les pages.
Il a dit, c'est très simple. D'accord? Il lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Il a dit, commence par la première page du sidour. Et cette première page, tu l'as fait avec une grande kavana. Tout le reste, tu zappes, tu tournes les pages. D'accord? Non, mais là, c'est dans le sens négatif.
Ça y est, la pub clandestine, ça y est.
On zappe devant des apps.
Alors, acheter les pizzas chez Zaps, voilà. Acheter une offerte.
C'est d'acheter 3 offertes.
D'acheter 2 offertes.
Mais tu t'es trompé, c'est de acheter.
D'accord.
Non, mais 4 fois.
Alors, je reprends. Non, mais attendez, ne me quittez pas le fil. En mode taille. Le rabbi l'a dit comme ça. Il a dit, c'est ce que tu fais. Ça c'est le rabbi Rachab, je crois. Il a dit, c'est ce que tu fais. Tu fais la chose suivante. Commence par la première page. D'accord? C'est bon?
Ça va être sur Internet en plus. Ils vont tous venir demain.
Bon, vous avez mis ça à l'histoire ou pas? Il a dit, regarde, un beau taille. Il a dit comme ça. Il a dit, Rabbi Rachab, il a dit comme ça. Il a dit, comment faire la première page? Celle-là, tu mets 10 minutes, un quart d'heure. Tout le reste après, tu mets 10 minutes pour faire le reste. C'est pas de problème. Quand tu penses, quand tu trouves que cette première page, ça y est, tu la maîtrises et que tu la vis bien.
La deuxième, un peu plus.
Tu cornes un peu la page comme ça et tu tournes. Et le lendemain, tu fais la demain. Et tu avances comme ça. Ça lui a pris plusieurs décennies. À la fin de sa vie, tout son livre était corné. Voilà. Ça veut dire qu'on prend le temps qu'il faut, pas de problème. Non, on Jérusalem ne s'est pas faite en un jour, pour pas dire. D'accord ? Ça prend, on prend le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ce qu'il dit ici. Il faut savoir que notre but à nous, c'est d'être des simcha.
Et là, ce que tu fais passer comme message, c'est qu'il faut être en mouvement, il faut avancer. En
tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est tout. C'est pas parce que tu as des acquis que tu dois vivre.
Et au passage, je voudrais juste terminer par ça, par la dernière phrase qu'il va dire ici. Tu as raison à 100%. C'est parce que c'est justement la suite qu'on va dire ici tout de suite. Il dit, on va lire ensemble dans les mots, en bas de la page, page 16. Veyamin emuna shlema. Maintenant, une fois que j'ai fait tes cheveux sur ma avirot, au moment programmé. Après, vient le Yitzhak qui va dire, peut-être que Dieu t'a pas programmé, peut-être que Dieu t'a pas pardonné. Qui te dit que t'es pardonné? Peut-être que ma tes cheveux n'étaient pas bonnes. Eh ben non! D'abord, je dois réfléchir comment me programmer. Et une fois que j'ai réfléchi à ce moment programmé que j'ai fait tes cheveux, Veyamin emuna shlema ki Hashem vi chatato. Je dois avoir une emuna absolue que Hashem a fait passer ma faute. Vérave l'histoire et qu'Hashem a pardonné. Et ça, c'est la vraie joie qui peut venir après la souffrance. C'est quoi la vraie joie qui vient après la souffrance? C'est quand j'ai un soulagement de me dire, ça y est, j'ai été pardonné. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à rentrer dans le doute. C'est-à-dire, peut-être que ma teshuva n'était pas bonne. Il y a pas des gens qui veulent me parler. Il me dit, j'ai fait teshuva, mais je me dis, peut-être qu'elle n'était pas bonne, ma teshuva. Peut-être qu'elle n'était pas bonne. Peut-être qu'en vérité, je n'ai pas fait comme il faut. Peut-être que je n'ai pas fait kippour comme il faut. Peut-être que je n'ai pas fait ça comme il faut. Peut-être que je n'ai pas fait comme il faut. Le peut-être. Et ça, le peut-être, ça te ronge et ça te tue. Enfin, lève tout. C'est horrible. Ça, tout. Ouais. Donc, on a bien compris le programme d'aujourd'hui. D'abord, j'y pense pas. Que dans les moments programmés, qu'on a expliqué. Même dans ces moments programmés, je pense positivement. C'est-à-dire, je pense, Dieu, il est tellement grand, comment j'ai pu faire ça, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Et une fois que j'ai pensé positivement et que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pour réparer, donc toujours vers l'avant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, maintenant, je suis sûr que j'ai été pardonné. Et on disait la chose comme ça chez les chassidim. On disait, quelle est la différence entre la mélancolie et la déprime? Je vais le dire en hébreu, entre Hatzvut et Merirut. C'est que quand une personne est réellement déprimée, il reste sous sa couverture. Mais quand il a de la mélancolie de ce qu'il a fait, il est comme un lion, il a envie de tout arranger. Ça, c'est la différence. Quand je suis déprimé et que je me dis, il laisse tomber, c'est mort, c'est fini, je suis un zombie et ça arrive, il fait ce qu'il veut. Mais si je réfléchis à mes avérotes, comme qu'on fait tous au mois d'Eloul, est-ce que quand on arrive à la fin du mois d'Eloul, on dit, ah, laisse tomber, on a fait des avérotes, c'est fini, Dieu va nous punir, va nous tuer? Non! On réfléchit, on est comme un lion. On se dit, j'ai fauté l'année dernière, mais cette année, je vais assurer. Je vais. On est comme un lion. Et ben, c'est comme ça que ça, c'est une bonne teshuva. C'est une teshuva qui est toujours vers l'avant. Positive, constructive, d'accord? Toujours progressive. Je vais avancer, je vais réussir. Quand c'est une teshuva comme ça, j'ai la émouna que j'ai été pardonné, et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on peut avancer.
Mais chaque année, ça revient.
C'est un vrai coach de rugby, hein. Ouais.
Chaque année, ça revient.
Chaque année, chaque jour, chaque année, chaque heure, tout, ouais, bien sûr. C'est pas un problème. Parce qu'on avance dans la vie.
C'est un éternel record.
On avance. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure, au début du cours, l'exemple du Ketz. D'accord? J'ai donné l'exemple du Ketz. J'ai donné l'exemple du Ketz. D'accord? Que ne croyons pas qu'on n'a pas avancé. De Kippour on avance. Comme Tisha B'Av en Tisha B'Av, comme Mashiach et Kitsim, comme les dates butoirs. Oui, on avance.
Oui, mais c'est un éternel recommencement.
Non, mais chaque fois on le fait un peu mieux.
Oui, un peu c'est mieux ça, à chaque
fois. Il y a une progression.
Il y a une progression. Ça c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Avant tu mangeais le matin, maintenant tu manges l'après-midi.
Mélancolie.
Des exemples.